Les maudits sont sans importance. Sans importance. Sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un dernier extrait du livre de Françoise Sagan, Un certain sourire. Après ce week-end, j'avais rendez-vous avec Luc à 6 heures. Il me semblait qu'il y aurait désormais entre nous quelque chose d'irréparable, quelque chose d'irrespirable dans tout nouvel essai de futilité. J'étais prête, enfin, telle une jeune fille du XVIIe siècle, à lui demander réparation pour un baiser. Nous avions rendez-vous dans un bar du Quai Voltaire. À ma surprise, Luc était déjà là. Il avait très mauvaise mine, l'air fatigué. Je m'assis près de lui et il commanda aussitôt de whisky. Puis il me demanda des nouvelles de Bertrand. « Il va bien. »« Il souffre ?» Il ne posait pas la question sur un ton railleur, mais tranquille. « Pourquoi souffrirait-il » demandai-je bêtement. « Il n'est pas sot. »« Je ne comprends pas. Pourquoi vous me parlez de Bertrand ? C'est secondaire ?» Il avait cette fois posé la question d'une voix ironique. Je m'impatientais. Ce n'est pas secondaire, mais enfin, ce n'est pas très grave. Tant qu'à parler de choses graves, parlons plutôt de Françoise. Il éclata de rire. C'est drôle, tu verras. Dans ce genre d'histoire, le partenaire de l'autre vous paraît un obstacle plus sérieux que le vôtre propre. C'est assez affreux à dire, mais quand on connaît quelqu'un, on connaît aussi sa manière de souffrir et ça paraît assez acceptable. Enfin, acceptable, non, mais connu, donc moins effrayant. Je connais mal la manière de souffrir de Bertrand. Tu n'as pas eu le temps. Moi, il y a 10 ans que je suis mariée. J'ai donc vu souffrir Françoise. C'est très désagréable. Nous restâmes un moment immobiles. Tous deux nous évoquions probablement Françoise souffrant. Dans mon esprit, cela donnait Françoise tournée contre un mur. C'est idiot, dit Luc enfin. Mais tu comprends? C'est moins simple que je ne le pensais. Il prit son whisky et l'avala en renversant la tête. Je me sentais au cinéma. J'essayais de me dire que ce n'était pas le moment d'être en dehors du coup, mais j'étais dans une impression de totale irréalité. Luc était là, il allait décider, tout allait bien. Il se pencha un peu en avant, son verre vide entre ses mains, y faisant tourner la glace d'un mouvement régulier. Il parlait sans me regarder. J'ai eu des aventures, bien sûr. Françoise les a le plus souvent ignorées, sauf quelques malheureuses fois. Ce n'était jamais bien sérieux. Il se redressa avec une espèce de colère. Toi non plus, d'ailleurs, ce n'est pas très sérieux. Rien n'est très sérieux. Rien ne vaut contre Françoise. Je l'écoutais sans souffrir. Je ne sais pas pourquoi. Il me semblait assister à un cours de philosophie sans rapport avec moi. Mais c'est différent. Au début, je te désirais comme un homme de mon genre peut désirer une petite jeune fille féline et butée et difficile. Je te l'ai dit d'ailleurs. Je voulais t'apprivoiser, passer une nuit avec toi. Je ne pensais pas. Brusquement, il se tourna vers moi, me prit les mains, me parla avec douceur. Je regardais son visage de très près. J'en détaillais toutes les lignes. J'écoutais passionnément ce qu'il disait. J'étais enfin douée d'une attention sans faille, délivrée de moi-même, sans petite voix intérieure. Je ne pensais pas que je pourrais t'estimer. Je t'estime beaucoup, Dominique, je t'aime beaucoup. Je ne t'aimerai jamais pour de vrai, comme disent les enfants. Mais nous sommes pareils, toi et moi. Je n'ai plus seulement envie de coucher avec toi, mais j'ai envie de vivre avec toi, de partir avec toi en vacances. Nous serions très contents, très tendres. Je t'apprendrai la mer et l'argent, et une certaine forme de liberté. Nous nous ennuierions moins, voilà. Je voudrais bien aussi, dis-je. Après, je reviendrai à Françoise. Qu'est-ce que tu risques? De t'attacher à moi? De souffrir après? Mais quoi? Ça vaut mieux que de t'ennuyer. Tu aimes mieux être heureuse et malheureuse que rien, non? Évidemment, dis-je. Qu'est-ce que tu risques? Répéta Luc comme pour s'en convaincre. Et puis souffrir, souffrir, il ne faut rien exagérer, repris-je. Je n'ai pas le cœur si tendre. Bon, dit Luc. On verra, on réfléchira. Parlons d'autre chose. Veux-tu un autre verre? Nous bûmes à notre santé. Ce que je voyais de plus clair, c'est que nous allions peut-être partir ensemble, en voiture, comme je l'avais imaginé et cru impossible. Et puis je me débrouillerais bien pour ne pas m'attacher à lui, sachant les ponts coupés d'avance. Je n'étais pas aussi folle. Nous allâmes nous promener sur les quais. Luc riait avec moi, parlait. Je riais aussi. Je me disais qu'avec lui, il faudrait toujours rire. Et je m'y sentais assez disposée. Le rire est le propre de l'amour, disait Alain. Mais il n'était pas question d'amour, simplement d'accord. Et puis enfin, j'étais assez fière. Luc pensait à moi, il m'estimait, me désirait. Je pouvais me concevoir comme un peu drôle, estimable, désirable. Le petit fonctionnaire de ma conscience, qui dès que je pensais à moi-même, m'en renvoyait une image minable, était peut-être trop dur, trop pessimiste. Quand j'eus quitté Luc, j'entrai dans un bar et bu un autre whisky avec les 400 francs qui devaient assurer mon dîner. Au bout de 10 minutes, j'étais merveilleusement bien. Je me sentais tendre, bonne, plaisante. Il me fallait rencontrer quelqu'un pour qu'il en profite, que je lui explique toutes les choses dures, douces et aiguës que je savais sur la vie. J'aurais pu parler des heures. Le barman était gentil mais sans intérêt. Aussi, me rendis-je au café de la rue Saint-Jacques. J'y rencontrai Bertrand. Il était seul avec quelques soucoupes. Je m'assis près de lui et il eut l'air enchanté de me voir. Je pensais justement à toi. Il y a un nouvel orchestre de bop au Kentucky. Si on y allait, il y a un temps fou qu'on n'a pas dansé. Pas un sou, fis-je piteusement. Ma mère m'a donné 10 000 francs l'autre soir. On va boire encore quelques verres et on y va. « Mais il n'est que 8 heures, objectai-je. Ça n'ouvre qu'à 10 heures. »« On boira plusieurs verres, » dit Bertrand gaiement. J'étais ravie. J'aimais beaucoup danser les figures rapides du bop avec Bertrand. La boîte à disques jouait un air de jazz qui me faisait bouger les jambes. Quand Bertrand eut payé les consommations, je me rendis compte qu'il avait dû pas mal boire. Il était tout gai. D'ailleurs, c'était mon meilleur ami, mon frère. Je l'aimais profondément. Nous fîmes 5 ou 6 bars jusqu'à 10 heures. À la fin, nous étions complètement ivres, follement gais, même pas sentimentaux. Quand nous arrivâmes au Kentucky, l'orchestre avait commencé à jouer, il n'y avait presque personne et nous avions la piste pour nous tout seuls ou presque. Contrairement à mes prévisions, nous dansions très bien, nous étions très détendus. Plus que tout, j'aimais cette musique, l'élan qu'elle me donnait, ce plaisir de tout mon corps à la suivre. Nous ne nous asseyons que pour boire. La musique, dis-je confidentiellement à Bertrand, la musique de jazz, c'est une insouciance accélérée. Il se redressa brusquement. C'est tout à fait ça. Très, très intéressant. Formule excellente. Dominique, bravo. N'est-ce pas, dis-je. Whisky infect au Kentucky. Bonne musique néanmoins. Musique égale insouciance. Insouciance de quoi ? Je ne sais pas. Écoute la trompette. Ce n'est pas seulement insouciant, c'est nécessaire. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout de cette note, tu as senti ? Nécessaire. C'est comme l'amour, tu sais, l'amour physique. Il y a un moment où il faut que... où il ne peut pas en être autrement. Parfaitement. Très, très intéressant. On danse ? Nous passâmes la nuit à boire et à échanger des onomatopées. À la fin, c'était un vertige de visage, de pied, et le bras de Bertrand qui m'envoyait très loin de lui, et la musique qui me relançait à sa rencontre, et cette incroyable chaleur, et cette incroyable souplesse de nos corps. « On ferme, dit Bertrand, il est 4 heures. »« C'est fermé aussi chez moi, remarquai-je. »« Ça ne fait rien, dit-il. » Il était vrai que ça ne faisait rien. Nous allions rentrer chez lui, nous étendre sur son lit, et il serait très normal que, comme tout l'hiver, j'ai sur moi cette nuit le poids de Bertrand et que nous soyons heureux ensemble. J'étais allongée contre lui dans le matin et il dormait, sa hanche contre ma hanche. Il devait être tôt. Je ne pouvais pas me rendormir et je me disais que pas plus que lui, enfoncée dans ses rêves, je n'étais là. C'était comme si mon véritable moi eût été très loin, bien après des maisons de banlieue, des arbres, des champs, des enfances, immobile au bout d'une allée. Comme si cette jeune fille penchée sur ce dormeur n'eût été qu'un pâle reflet de ce moi tranquille, inexorable, dont déjà, d'ailleurs, je m'écartais pour vivre. Comme si, à un moi-même éternel, j'eusse préféré ma vie, laissant cette statue au bout d'une allée dans la pénombre, avec sur ses épaules, comme des oiseaux, toutes ses vies possibles et refusées. Je m'étirais, je m'habillais. Bertrand s'éveillait, me questionnait, bâillait, passait la main sur ses joues et son menton, se plaignait de sa barbe. Je lui donnai rendez-vous pour le soir et regagnai ma chambre pour y travailler. En vain. Il faisait atrocement chaud. Il devait être midi. Je devais déjeuner avec Luc et Françoise. Ce n'était pas la peine pour une heure de me mettre au travail. Je ressortis acheter un paquet de cigarettes. Je rentrai, en fumai une, et me rendis compte brusquement en l'allumant que je n'avais pas vécu un seul de mes gestes de toute ma matinée. Qu'il n'y avait rien eu pendant des heures que ce vague instinct de conservation de mes habitudes. Rien, pas un moment. Et où l'aurais-je trouvé ? Je ne croyais pas au merveilleux sourire humain dans l'autobus, ni à la vie palpitante de la rue, et je n'aimais pas Bertrand. Il me fallait quelqu'un ou quelque chose. Je me disais cela en allumant ma cigarette, presque à voix haute, quelqu'un ou quelque chose. Et cela me paraissait mélodramatique. Mélodramatique et drôle. Ainsi, comme Catherine, j'avais des moments d'exaspération sentimentale. J'aimais l'amour et les mots qui se rapportaient à l'amour. Tendre, cruel, doux, confiant, excessif. Et je n'aimais personne. Luc, peut-être, quand il était là. Mais je n'osais penser à lui depuis la veille. Je n'aimais pas ce goût de renonciation qui m'emplissait la gorge quand je me le rappelais. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien de quelle couleur étaient ses yeux. Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? Vous pouvez me retrouver tous les mardis à 9h45 sur Jet FM ou en podcast.
Les maudits sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots sont sans importance.
Les mots.